est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est une idée géniale et ambitieuse, l'exposition La Terre en héritage du néolithique à nous, au milieu de laquelle nous nous trouvons, vient d'être inaugurée au musée des Confluences à Lyon, dans le sud-est de la France. Le pari est audacieux. Comprendre comment notre manière d'habiter la Terre aujourd'hui puise ses racines dans la révolution qu'a connue l'humanité il y a 12 000 ans, le néolithique. Alors le néolithique se caractérise par la sédentarisation des humains dans les premiers villages qui donneront les villes, par l'agriculture, mais aussi par l'élevage. Une rupture donc avec les modes de vie passés qui a bouleversé notre rapport à l'environnement et qui va avoir des impacts colossaux parce que la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Durant ces milliers d'années d'adaptation, notre espèce s'est adaptée avec succès. Saurons-nous affronter la suite? C'est aussi une question posée par cette exposition et nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Christian Sermet.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service des expositions et le référent des collections du musée. Alors merci de nous accueillir tout d'abord. Et pourquoi et comment avez-vous décidé de créer cette exposition La Terre en héritage?
Nous sommes partis du postulat que la Terre était notre maison, à nous, société humaine. Et on s'est posé la question, comment l'habitons-nous? Et pour répondre à cette question, on a convoqué autour de la table, comme on aime à le faire, un comité scientifique interdisciplinaire. Et on est allé interroger le temps long. Donc on est allé voir comment, il y a 12 000 ans, au néolithique, notre perception de l'environnement et de la nature avait fondamentalement changé. Et ça avait bouleversé finalement la manière de penser le monde des sociétés de cette époque et puis de celles qui ont suivi. Et puis on s'est intéressé plus récemment au 19e siècle, au 20e siècle et depuis les années 1950, comment, dans une accélération qui devient exponentielle récemment, eh bien, les dégradations dues aux actions humaines avaient posé une empreinte indélébile sur notre environnement, sur la nature, sur les êtres vivants et par rebond sur nous-mêmes.
Alors une exposition comme celle-ci, c'est 3 ans de travail, des connexions avec des musées du monde entier pour faire venir des collections. C'est un travail colossal en fait.
Alors c'est un travail important et surtout en période de pandémie, puisque la situation n'est pas la même dans tous les pays. On a un objet qu'on attend. Là, c'est une petite statuette féminine qui vient de Tchécoslovaquie. Et on a appris enfin aujourd'hui qu'elle arrivait bientôt.
Alors voilà, une bonne nouvelle. Mais écoutez, merci de nous accueillir. Merci pour cette introduction. Je vous présente maintenant nos autres invités qui ont fait partie donc, du comité scientifique de l'exposition. En tout cas, c'est votre cas. Jean-Paul Demoule, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'archéologie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et alors, je vous ai demandé à chacun, parce que pour introduire cette exposition, puisque les gens qui nous regardent ne peuvent pas encore y avoir accès. Bon, elle est là jusqu'à la fin janvier, donc avec un peu de chance, elle va s'ouvrir quand même au public. Je vous ai demandé de choisir un objet. Quel est votre objet?
J'ai choisi une hache polie, puisque jadis, on appelait aussi le néolithique hache de la pierre polie. La pierre, il faut d'abord la tailler, mais le polissage permet de donner une certaine dureté aux matériaux. Et pourquoi est-ce qu'on a fabriqué ces haches polies, d'ailleurs à peu près au même moment dans le monde entier? C'était pour abattre les arbres, et à la fois pour dégager l'espace pour la culture, puisque toute l'Europe et une grande partie du monde sont couverts d'une forêt vierge il y a 10-12 000 ans, au moment où le climat va se réchauffer, on entre dans l'actuel interglaciaire, et aussi pour construire les maisons, puisque l'essentiel des habitations va être construite en bois et en terre. Donc cette hache polie, elle symbolise parfaitement les débuts du néolithique et les premières atteintes massives à l'environnement, puisque forêt abattue, donc dégradation des sols, la forêt repousse mal parce qu'en plus il y a des animaux qui commencent à brouter les jeunes pousses. Donc c'est un des grands commencements de nos ennuis.
Et ça a façonné beaucoup de paysages,
oui,
cette
bien
hache
sûr.
Finalement.
Oui.
Alors avec nous aussi Jean-Baptiste Fressos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chargé de recherche au CNRS. Alors vous aussi, vous avez fait le jeu de choisir un objet. Quel est votre objet?
Alors j'ai choisi un bête tonneau.
Alors pourquoi un tonneau ? Parce qu'en fait, on a une vision de l'histoire des techniques qui est profondément influencée justement par cette idée de hache de pierre, hache de bronze, hache de fer, par les préhistoriens en fait. Et même par les préhistoriens qui travaillent dans des musées, qui ont créé une culture phasiste en fait de l'histoire des techniques, où on passerait d'âge en âge. De fait, récemment, on nous dit qu'il faut faire une transition énergétique, c'est-à-dire qu'il faut changer d'âge, il faut sortir de l'âge des fossiles, avec cette idée que par le passé, on a fait des transitions, que l'histoire matérielle, l'histoire des techniques, ce serait d'abord l'histoire du bois, ensuite l'histoire du charbon avec la révolution industrielle, puis l'histoire du pétrole au XXe siècle, et puis maintenant on va arriver dans un nouvel âge. Et en fait, ce tonneau, il perturbe un peu cette vision trop simple et trop phasiste de l'histoire des techniques, parce que c'est un tonneau qui contenait du pétrole. Et en fait, le grand âge du tonneau, ce n'est pas du tout l'Antiquité ou le Moyen-Âge.
Avec le vin.
Même pas le vin, ce n'est même pas la question du vin, au fond. Ce qui est important, c'est le pétrole et tous les autres produits chimiques, etc. Il y a une explosion de la production de tonneaux à partir de la fin du XIXe siècle. Les tonneaux qui contenaient du pétrole se mettent à proliférer. Et le grand âge du tonneau, c'est en fait la Seconde Guerre mondiale. C'est là, sans doute, au moment où on produit le plus de tonneaux. Et donc, ça montre bien qu'en fait, plus on va consommer de pétrole, plus on va consommer aussi de bois. De même que plus on va consommer de charbon, plus on va consommer de bois pour plein de raisons différentes, les chemins de fer, les mines, etc. Et donc, si on sort de cette vision phasiste de l'histoire des techniques, on comprend que ce dont on hérite, c'est tout cet empilement de techniques, de matières, de flux de matières, et que ce qu'il faut faire pour résoudre la question du changement climatique, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais fait une vraie transition énergétique.
Jean-Paul Demoule, vous avez écrit que le néolithique faisait partie des grandes conneries de l'histoire humaine. Nous en parlons juste après le chanteur, auteur, compositeur et saxophoniste américain Jimmy Castore et sa fameuse chanson funk troglodyte Caveman.
C'est pas du vent sur RFI.
There was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men or troglodytes. Cavemen. Cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home, listening to his stereo. Sometimes he'd get up, try to do his thing. He'd begin to move, something like this. Dance. Dance. When he got tired of dancing alone, he'd look in the mirror, he'd say, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman. He'd go down to the lake, where all the girls would be swimming or washing clothes or something. He'd look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. You can't do that today, fellas, 'cause it might come off. You'd have a piece of hair in your hand, she'd be swimming away from you. This one woman just laid there, wet and frightened. He said, move. Move.
De Jimmy Castore Brunch dans C'est pas du vent sur RFI, nous sommes au musée des Confluences aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'exposition La Terre en héritage, du néolithique à nous, au milieu de laquelle nous nous trouvons. Jean-Paul Demoule, comme vous l'avez écrit dans l'histoire universelle de la connerie, le néolithique fait partie des grandes conneries de l'histoire humaine. Pourquoi ?
Oui, on m'a demandé dans ce recueil de faire la préhistoire de la connerie. Donc l'histoire humaine est quand même jalonnée d'un certain nombre de conneries. Déjà, l'idée de sortir d'Afrique où est apparue l'humanité était un peu étrange puisqu'il y avait de la place, de quoi manger, c'était grand. Et si c'est pour se retrouver au pôle Nord ou pire, passer par le détroit de Bering et redescendre dans le Sud, pour se retrouver dans le même environnement, c'était quand même étrange. Mais le néolithique, effectivement, va tout changer, puisque avec l'agriculture sédentaire, eh bien, ça va entraîner une démographie humaine qui n'est toujours pas contrôlée, et donc l'obligation de nourrir de plus en plus de personnes sur une planète finie. Donc sans arrêt, on est obligé d'inventer, donc la roue, le métal, les pesticides, etc. Ça va augmenter la violence puisqu'il y a de plus en plus d'humains et ils sont sédentaires, donc des problèmes de territoire qu'on voit très bien archéologiquement. Et ça va augmenter aussi de plus en plus les inégalités à l'intérieur de chaque société.
Michel Lussault nous a rejoint, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, vous êtes géographe, professeur d'études urbaines à l'ENS Lyon et directeur de l'école urbaine de Lyon. Alors vous aussi, vous avez choisi un objet, et votre objet, c'est une bouteille de Coca-Cola qui date de 1975. Alors pourquoi cet objet ?
Lorsque nous avons réfléchi à cette exposition avec les équipes de musée, de l'INRAP, avec Jean-Paul, nous sommes aperçus que la question du contenant était évidemment une question très importante dans toute l'histoire des sociétés humaines. Et donc c'était assez fort de prendre cet objet anodin auquel on ne pense plus. Alors peut-être que maintenant nous commençons à porter un regard critique sur cet objet que pendant très longtemps, quelques dizaines d'années, nous avons utilisé sans trop y songer. Mais en réalité, l'apparition de la bouteille en plastique, c'est un bouleversement absolument radical dans l'histoire des sociétés humaines et dans l'histoire de l'utilisation des contenants. Puisque la bouteille en plastique, c'est ce contenant parfaitement universel, totalement ubiquitaire, qui peut servir absolument à tout. Et nous ne songeons pas à la débauche de technicité, de technologie, et d'énergie et de matières premières qu'il faut pour produire une bouteille en plastique, mais surtout pour produire les dizaines de milliards de contenants en plastique que nous produisons chaque année. Et les cinq plus gros producteurs mondiaux sont cinq grandes majors de l'agroalimentaire et des produits ménagers. C'est-à-dire, allez, on peut les citer, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, notamment à travers la division eau minérale de Nestlé, et ensuite on va trouver Unilever, puis Kraft, etc. Donc ce sont en plus des contenants complètement usuels, c'est-à-dire des choses qui sont intégrées à la vie de tous les jours. Et prendre cette bouteille en plastique, c'est à la fois donner au spectateur qui va visiter l'exposition la possibilité de comprendre à quel point finalement ces objets sont partout, mais à quel point aussi la transition vers un autre mode de vie, plus respectueux des systèmes biophysiques, va nous demander aussi un effort individuel à chacun, et puis un effort collectif, parce que les cinq plus grandes entreprises de production de bouteilles en plastique du monde sont cinq très grandes firmes globalisées. Donc il faut que nous fassions un effort, et il faut aussi que le système productif s'adapte.
Voilà, et cette bouteille en plastique, elle est placée dans l'exposition à côté d'une bouteille en terre qui date de moins 3500 ans, je crois, hein, Jean-Paul Demoule, qui vient d'Égypte, qui prouve que quand même, on savait avant produire des matériaux qui étaient plus renouvelables. On n'a pas dit juste en introduction, pour bien planter le décor, pourquoi est-ce qu'il y a eu le néolithique finalement, il y a 12 000 ans ? C'est un mélange de cerveau humain évolué et de réchauffement du climat, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est l'hypothèse raisonnable qu'on peut faire, parce que ça faisait 100 000 ans qu'il faisait très froid dans la précédente glaciation et on n'a pas d'agriculture. Et la fois précédente où il faisait bon, le précédent interglaciaire, qu'on appelle éémien dans notre jargon, entre moins 130 000 et moins 115 000 ans, personne n'invente l'agriculture à ce moment-là. En Europe, c'était essentiellement les hommes de Néandertal. Et comme notre cerveau évolue sans arrêt, et à partir de 40 000 ans, c'est là qu'on observe les premières représentations, dessins, figurations, etc., on peut penser que c'est l'un des signes de complexité du cerveau humain. Donc cette coïncidence des deux choses, mais qui n'explique pas tout, parce que évidemment il faut des circonstances, il faut des animaux et des plantes domesticables, il faut maîtriser les techniques, savoir stocker les graines sans qu'elles pourrissent et stocker les animaux sans qu'ils tombent malades, mais ça c'est quand même pas fait partout, ça aurait pu se faire. Donc ça suppose aussi certaines visions du monde, des différences culturelles, la manière de regarder la nature et avoir l'idée justement, au lieu de se sentir immergé dans la nature, de vouloir en prendre le contrôle. Donc il n'y a jamais une cause unique, c'est toujours une sorte de mayonnaise qui fait que les choses vont prendre ou pas.
En tout cas, ce que démontre cette exposition, c'est que le néolithique a posé un peu les bases du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a frappé, Jean-Baptiste Fressoz, en visitant cette exposition, justement, sur comment, déjà il y a 12 000 ans, on a mis en place les bases de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Parce que c'est vraiment le principe de cette exposition, hein. On fait un saut dans le temps.
Ce qui est frappant, en fait, c'est la continuité des objets techniques, au fond. C'est-à-dire que vous ayez une hache, une tronçonneuse, c'est la même fonction, mais avec une productivité absolument décuplée. Sur les contenants aussi, je trouve que c'est assez frappant. La bouteille de coca, je vais revenir à mon tonneau, je suis désolé, mais la bouteille de coca, elle est aussi à côté d'un tonneau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la différence fondamentale dans les contenants récents, c'est qu'ils sont marqués, ils sont griffés, il y a le nom de la marque dessus. Et donc, les contenants jetables, c'est lié à l'industrialisation du papier à la fin du 19e siècle, la vraie révolution. En fait, ça permet d'apposer la marque sur le contenant. Ça crée une relation directe entre l'entreprise et le consommateur qui n'existait pas auparavant. Au milieu du 19e siècle, vous alliez acheter votre vin, votre vinaigre, etc. Vous achetez ça dans un tonneau. Voilà, on achetait ça en vrac. Et c'est à partir de la fin du 19e siècle que se crée cette relation vraiment directe entre le producteur et le consommateur. Et donc se met en place une société de consommation. Donc on peut raconter toute cette histoire à travers des objets qui paraissent triviaux et dont on voit la longue histoire, en fait. C'est ça que je trouve intéressant.
La fabrique du consommateur, c'est comme ça que c'est expliqué dans l'exposition. Et Michel Lussault, il y a une constante dans la manière d'habiter la Terre hein, depuis le Néolithique. On le voit par les villages. D'ailleurs, c'est symbolisé par ce qui nous entoure. Là, le bois, c'est finalement ces barrières en bois qu'il y avait autour des villages du Néolithique. Mais ces villages sont les débuts des villes. Et finalement, même si le Néolithique a eu lieu dans plusieurs endroits du monde en même temps, il y a eu plusieurs berceaux. Partout, il y a eu ce besoin de se regrouper. Ce sont les embryons de nos mégapoles d'aujourd'hui, quoi.
Alors, ça serait peut-être difficile de tirer une ligne aussi droite et aussi directe, mais en tout cas, pour un géographe comme moi, on pourrait dire que le répertoire de formes d'organisation de la vie matérielle, finalement, il est assez limité. Voilà, il est à la fois varié, mais assez limité. On va retrouver des sortes de grandes régularités. Comme le disait Jean-Baptiste, on a besoin de contenants pour remplir, pour mettre des matériaux. Ben ça, dès qu'on en a besoin, on trouve des solutions techniques pour le faire. L'agrégation des populations est aussi quelque chose qui va venir très tôt. Les manières d'organiser un espace agricole, un finage par exemple, ce sont aussi des choses qui finalement sont assez constantes, assez régulières. Il y a des formes de convergence, j'allais dire presque du village Borro de Lévi-Strauss jusqu'à l'Oppenfield du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Mais finalement, on trouve des choses assez proches. Et jusqu'aux années 1900-1920, le monde restait un monde encore très marqué par des principes d'organisation qui avaient été mis en place il y a quelques milliers d'années et qui sont restés relativement stables. Alors évidemment, l'industrialisation avait ajouté une première couche de nouveauté, mais ce qui est très intéressant, et c'est un peu le pari de cette exposition, c'est aussi de constater que c'est vraiment à partir de 1945-1960 qu'on entre dans une autre phase, ce que j'appelle moi la phase de la mondialisation urbaine, où là, ça n'est pas qu'on invente totalement de nouvelles formes. On a toujours besoin de contenants, on a toujours besoin de s'agréger, on a toujours besoin de circuler, on a toujours besoin de se contacter, on a toujours besoin de produire. Mais on va passer à une autre phase en matière d'organisation de la vie sociale où tout va s'accélérer, tout va plus vite et tout va changer d'échelle. Le fait que nous soyons aujourd'hui 7,5 milliards d'habitants et bientôt 10 milliards, ça change complètement l'échelle des phénomènes.
Oui, parce que Jean-Paul de Boulle, au début du Néolithique, il y a 12 000 ans, on était combien sur Terre?
Oui, on considère qu'on était à peu près 1 ou 2 millions sur toute la planète. Et des petits groupes de 20-30 personnes et relativement mobiles en fonction des ressources saisonnières. Donc ça va être effectivement un décollage sans commune mesure avec ce qu'il y avait avant et une accélération exponentielle tout à la fin.
Oui, c'est ça. Il y a une accélération quand même à partir de quoi, 1950 ? Là, c'est plus votre période, mais...
Sur la population, c'est avant. Là, le début de la croissance démographique plus rapide, c'est la fin du XVIIIe siècle, en fait. Donc ça remonte...
Alors qu'en même temps, paradoxalement, c'est le début du contrôle des naissances dans certains pays, mais ça ne va pas être très efficace.
Et on peut penser, en tout cas c'est un des paris de l'exposition qui insiste beaucoup, vous l'avez vu, sur l'urbanisation. Hein. L'urbanisation commence à croître là aussi au XVIIIe siècle, dans une atmosphère qui est celle du productivisme thermo-industriel, comme on a l'habitude de le dire. Mais à partir de 1945-50, on a une croissance urbaine qui se généralise, qui se mondialise. Et à partir des années 1980-90, il ne faut jamais l'oublier, entre en lice un nouveau joueur dans le jeu de l'urbanisation mondiale, c'est la Chine, hein, et en particulier la Chine continentale, qui va connaître une croissance urbaine absolument stupéfiante. Et cette croissance urbaine, elle va être l'attracteur de la croissance urbaine mondiale. C'est-à-dire l'Asie va devenir vraiment le centre de gravité de la mondialisation urbaine. Et ça, c'est un changement aussi de rythme et d'échelle dans les phénomènes que nous essayons de placer dans l'exposition.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'exposition, quand on regarde l'évolution, c'est qu'on a l'impression qu'on va vers une espèce d'unicité, finalement, de mode de vie. Hein. On parlait des contenants plastiques qu'on retrouve partout, mais c'est aussi vivre en ville, c'est consommer tous pareil, etc. Enfin, se déplacer avec les mêmes transports, alors qu'au néolithique, il y avait une diversité folle. Finalement, on a envie de se dire, mais on aurait pu, à l'échelle de l'humanité, choisir d'autres voies que se copier les uns les autres.
Chaque groupe humain, à l'origine, tend à se distinguer. Donc nous, archéologues, on utilise beaucoup les poteries, notamment dans chaque région, on va faire des formes et surtout des décors de poteries qui vont être différents pour bien se différencier les uns des autres. Mais on a affaire à des petites entités sociales. Et puis progressivement, au cours du temps, eh bien on a des agglomérations qui fait qu'on va avoir des entités avec à chaque fois une culture matérielle relativement uniforme, mais de plus en plus grande, et on va aller vers les empires. L'empire romain, eh bien, de Londres à Damas, de Budapest à la région du Caire, eh bien, on va avoir les mêmes poteries, les mêmes décors, les mêmes théâtres, les mêmes amphithéâtres, etc. Et tout ça, effectivement, pour finir dans l'actuel empire mondialisé, avec, même s'il y a quelques phénomènes de résistance ça et là, eh bien, effectivement, les mêmes bouteilles de Coca-Cola qui poseront des problèmes aux archéologues, sans doute, du moins celles en verre, parce que celles en plastique, j'espère qu'elles auront disparu dans 10 000 ans.
Si je peux me permettre, je pense un des points importants de l'exposition, c'est de bien montrer que ce n'est pas une histoire linéaire, c'est-à-dire que tout ne commence pas au néolithique, et il y a des bifurcations majeures. Par exemple, il y a un cartel sur l'agriculture et la guerre. C'est évident que l'agriculture au XXe siècle, elle est profondément modifiée pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la croissance démographique. C'est qu'il y a des nouveaux modes de production qui héritent de phénomènes militaires. Par exemple, les pesticides sont liés au gaz de combat, les engrais chimiques, c'est lié aux explosifs. Donc là, il y a des moments de bifurcation absolument majeurs qui rendent possible la croissance démographique ultérieure dans le second XXe siècle. Mais c'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir, à mon avis, avec simplement des choses qu'on aurait posées au néolithique. Non, c'est le but. C'est de tuer en masse, c'est de pouvoir produire des explosifs alors qu'on est coupé d'approvisionnement, que l'Allemagne est coupée des approvisionnements de guano du Pérou et du Chili. Donc il y a des moments de bascule qui sont historiques en fait, qui ne sont pas simplement liés au destin d'Homo sapiens qui remontent au néolithique.
Cette exposition démontre à quel point l'histoire peut nous aider à comprendre la crise environnementale que nous traversons aujourd'hui, la crise qu'affronte l'homme moderne, chantée par Benjamin Paulin.
Je suis l'homme moderne, élevé au plateau télé, génération micro-ondes et plats surgelés, collectionneur d'objets sans utilité, nostalgique d'un passé qui n'a jamais existé. Je suis l'homme high-tech, discothèque, Internet. Pas de bibliothèque comme en avaient mes ancêtres, ou peut-être pour la décoration du living avec d'authentiques objets d'art fabriqués en usine. J'aime cette vie urbaine, les réparties à l'américaine, le câble, les chaînes, je suis l'homme western en amas cellulaire, le porte-parole du néant paumé sans son cellulaire. Je suis l'homme sans fil, relié par satellite. J'évolue sous un ciel bleu électrique. J'aime l'odeur de l'essence, les horizons cimentés, symétriques, supermarchés, musique, électronique. Je suis l'homme pub, l'homme dernier cri, appartement insalubre, vêtements hors de prix, un look industriel, des clones à chaque coin de rue fringués pareil, un uniforme original reste quand même un uniforme. Je suis l'homme poupée Barbie, version barbu, bien entretenu, si je prends soin de moi, c'est pas pour vivre centenaire, j'ai juste envie d'avoir l'air d'une affiche publicitaire. Je suis l'homme à tout faire. J'ai pas de vocation, pas de chemin. Je stream par intérim, prends les transports en commun. Le week-end, je vais en boîte, on s'y ennuie en commun. Je suis l'homme personne, on a des points en commun. On a les mêmes apparts, on a les mêmes cafards, les mêmes grand-mères mourantes, on prend pas le temps d'aller voir. Les mêmes boulots à la chaîne, les mêmes défonces pour oublier les mêmes problèmes. Je suis juste l'homme moderne. Je suis l'homme moderne, posé là comme un meuble. Et moi, oculaire d'une justice aveugle, les trois dans mon immeuble, un mammifère de trop, un danger pour la planète, un régal pour les asticots.
L'homme moderne vu par Benjamin Paulin dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes installés au cœur de l'exposition La Terre en héritage du néolithique à nous qui vient d'être inaugurée au musée des Confluences à Lyon dans le sud-est de la France. Alors quelles leçons pouvons-nous apprendre du néolithique pour nous aider à affronter la période actuelle? Parce que c'est aussi l'un des objectifs de cette exposition, Jean-Paul Demoule.
Oui, oui, on voulait pas dire tout va mal, c'était mieux avant et on va dans le mur, parce que effectivement, comme on l'a dit ici à plusieurs reprises, les sociétés humaines sont responsables d'elles-mêmes. Hein. Donc tout n'est pas fatal et on a aussi bien des exemples de sociétés qui sont allées dans le mur parce qu'elles ont très mal géré que de sociétés qui sont beaucoup mieux sorties, de sociétés très inégalitaires et de sociétés qui l'étaient beaucoup moins. Donc c'est évidemment plus difficile de prédire l'avenir que le passé, mais ce qu'on voulait montrer, c'est qu'effectivement, il y a des solutions. Et mettre en tension les deux, montrer qu'il y a régulièrement des bifurcations dans l'histoire, c'est aussi que les visiteurs, à la fin du parcours, se posent le problème de leur propre responsabilité vis-à-vis de ce qui les attend, sachant que voilà ce qui s'est passé dans l'histoire, voilà la situation dans laquelle on se trouve, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a jamais de fatalité dans l'histoire.
Alors, cette exposition, on l'a vu, hein, à travers vos choix, mais en avant des objets du quotidien, des objets qui ont évolué, évidemment, avec la technologie. Il y a un décalage technologique énorme entre le néolithique et l'époque actuelle, notamment parce qu'il y a eu les âges du bronze, les âges du fer, entre-temps, puis la révolution industrielle. Mais la technologie nous a permis de nous développer, nous a permis de nous adapter. Est-ce qu'elle pourrait nous sauver aujourd'hui? C'est un discours qu'on entend assez souvent, hein, Jean-Baptiste Fressoz, en disant... on va trouver des solutions pour se sortir de la crise écologique actuelle. Elles seront technologiques et tout ira bien.
Alors, que les choses soient claires, ce n'est pas un argument technophobe que de dire la technologie ne va pas nous sauver. Voilà. Ce n'est pas qu'il ne faille pas de technologie, mais ça veut dire que la technologie tout seule ne va pas résoudre le problème pour des raisons assez simples. C'est tout simplement, par exemple, s'il faut décarboner l'économie avant 2050, ça voudrait dire entièrement changer le système énergétique global en 30 ans. Une technologie, ça a une histoire, ça prend un certain temps de diffusion. Le pétrole, ça a mis 80 ans à se diffuser. Le charbon, ça a mis 160 ans. Donc, en tout cas, ça n'a jamais été vu dans l'histoire. C'est très, très peu probable, mon sentiment en tant qu'historien des techniques, qu'en 30 ans, on arrive à diffuser à l'échelle globale une technologie qui, pour l'instant, les renouvelables, genre solaire, éolien, c'est quelques pourcents du mix énergétique global. C'est tout à fait infime. Donc c'est pour cette raison toute simple qui a trait à ce que c'est que l'histoire des techniques, tout simplement, la réponse est non, la technologie ne peut pas nous sauver. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de l'éventail des solutions, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition entre décroissance et technologie. Dans le débat politique habituel, on oppose les décroissants et puis l'innovation, les décroissants seraient technophobes. Non, pas du tout. On pourrait très bien imaginer une décrue de nos consommations matérielles et en même temps des innovations qui peuvent avoir un rôle. Mais c'est simplement qu'il faut avoir en tête les ordres de grandeur. On émet chaque année 50 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'il y a un énorme réseau technique qui sort le carbone du sol, qui l'envoie dans l'atmosphère. Cet énorme réseau technique, on ne va pas l'annihiler en 30 ans, simplement en mettant des éoliennes et des panneaux solaires. Ça, c'est vraiment une illusion.
Mais alors, on fait quoi?
Ben alors, on fait une décroissance sérieuse de nos consommations matérielles et en même temps, on prévoit la montée en force le plus rapide possible de technologies renouvelables. Enfin, c'est les deux à la fois qu'il faut faire. Et toute autre solution, du genre il faut se reconnecter à l'environnement, etc., c'est en fait des vœux pieux en général.
Michel Lussault, au niveau des villes, par exemple, quand on parle des villes intelligentes, des villes hyper connectées, tout ça?
Oh, tout ça participe de cette illusion du technosolutionnisme que Jean-Baptiste évoque. Je vais tout à fait dans son sens. Il faut admettre, reconnaître que la technologie ne nous sauvera pas. Ne serait-ce que parce que si nous restons dans l'idée que la technologie peut nous sauver, indépendamment même des arguments que Jean-Baptiste donne sur l'histoire tout simplement des technologies, admettre que les technologies puissent nous sauver, c'est renoncer à être inventif en matière de technologie. C'est-à-dire, c'est se donner pieds et poings liés à un seul type de technologie, c'est-à-dire la technologie de puissance qui permettrait de maîtriser l'entièreté de notre rapport à l'environnement. Or, je pense qu'en matière urbaine, par exemple, il est très important de réhabiliter ce que l'on appellerait des technologies de basse intensité, mais de haute créativité sociale. nous allons avoir à inventer de nouvelles technologies sociales, faire preuve de créativité sociale et politique. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste, conjuguer une réflexion sur les technologies bas carbone et une forme de décroissance qui, par exemple, soit une décroissance qui permette, malgré tout, une vie bonne et digne pour le plus grand nombre. Ben voilà, inventer une vie bonne et digne pour le plus grand nombre en se sortant de la mythologie de la croissance économique permanente, ça nécessite de la créativité sociale, si l'on veut éviter que cela produise simplement de la pauvreté, du stress, du conflit, de la remise en question de l'émancipation. Et donc nous, dans cette exposition, et moi en tant que géographe réfléchissant aux villes, j'insiste beaucoup sur la créativité politique et sociale. Parce que ça, c'est une ressource, en revanche, peut-être la seule ressource qui n'est pas contingentée. C'est une ressource qui est inépuisable. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant si on le place au regard de ce que les néolithiciens nous disent du néolithique. Ben finalement, il y a des technologies qui sont des technologies qu'on appellerait aujourd'hui low-tech, hein, des technologies qui ne nécessitent pas une débauche de moyens, mais qui sont tout simplement au bon endroit et au bon moment en termes d'inventivité. Et bien, je crois que ça, c'est une exigence de notre époque anthropocène que de réhabiliter une grande variété de technologies et donc de dire la technologie classique de la puissance ne nous sauvera pas.
Faut revenir au low-tech. C'est quoi les technologies low-tech du néolithique, Jean-Paul Demoule ?
Je pense que si on prend de recul à l'échelle des millénaires, il faut se rappeler que si Homo sapiens, ces petits groupes de primates insignifiants en différents points de l'Afrique, en quelques dizaines de millénaires, sont devenus une espèce invasive, ont provoqué la sixième extinction massive des espèces, c'est que c'est une espèce particulièrement adaptative, qui est capable de vivre dans les conditions les plus extrêmes. Donc il est très possible que notre système s'effondre dans les dizaines d'années qui viennent, qu'il y ait des conflits, des dizaines de millions de morts, etc. Mais petit 1, ça n'empêchera pas la Terre de tourner, et petit 2, cette espèce survivra certainement. Après, effectivement, moi, ce n'est pas mon domaine de savoir quelles pourraient être les techniques. Je ne pense pas qu'il faille revenir au néolithique. Les jardins urbains et les ruches sur les toits sont certainement très sympathiques. Mais effectivement, on a des effondrements réguliers dans l'histoire, les Mayas, le système grec, mycénien, minoen, les civilisations de la vallée de l'Indus au Pakistan, où on a des systèmes surdimensionnés qui effectivement s'effondrent et puis on retourne à des communautés villageoises. Là, ce n'est pas du tout ma spécialité, je ne pense pas que ce sera ça qui se passera parce qu'il faut gérer quand même plein de gens, mais à l'échelle des millénaires, Homo sapiens, normalement, devrait s'adapter.
Oui, même si on le voit aujourd'hui à travers la pandémie que l'on traverse. D'ailleurs, c'est évoqué dans l'exposition. On voit les premières zoonoses qui sont liées au rapport avec au début de l'élevage, finalement.
Oui, c'est une vertèbre qui a 4000 ans et qui a été affectée. Enfin, le possesseur ou la possesseuse de cette vertèbre a été affectée par la brucellose qui est donnée par les moutons. Il y avait des tas de maladies chez les animaux et il y avait aussi des maladies chez les humains, mais comme c'était des petits groupes, ça allait pas très loin à chaque fois. Tandis que quand on concentre les humains et les animaux, d'une part, on va créer aussi bien les animaux domestiques que les animaux dits comme mensaux, comme les rats et leurs puces. On concentre, donc on favorise. Et puis, comme on a beaucoup plus d'humains et qui sont sédentaires, eh bien, ça va permettre... les épidémies sont effectivement une invention du néolithique.
Une invention du néolithique. Mais alors, Michel Lussault, on se dit que finalement, avec cette pandémie, on voit les gens qui ont envie de... qui se sont retrouvés confinés, quand même, 4 milliards et demi de personnes qui se sont retrouvées confinées d'un coup. Les gens ont envie de quitter les villes, enfin, ceux qui en ont les moyens, en tout cas. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les villes perdent un peu de leur superbe et que, du coup, on réinvestisse davantage les zones rurales ou les villes de taille moyenne ou inférieure ?
Tout est toujours possible, rien n'est écrit. Cela étant, rappelons une chose. Aujourd'hui, l'urbanisation, ça n'est pas simplement qu'un phénomène statistique. On dit qu'il y a 57% de la population du globe qui est statistiquement dans les villes. Mais en réalité, l'urbanisation, du point de vue du géographe et sans doute de l'historien aussi et du préhistorien, c'est surtout un changement des modes de vie. des manières de vivre. Parce que, tenez, la bouteille de plastique dont on parlait tout à l'heure, on peut l'utiliser au cœur de l'Amazonie, comme on peut utiliser un smartphone en pleine forêt équatoriale de Bornéo. Donc, je ne pense pas qu'il soit très utile de réfléchir en termes de fin des villes. Parce que je pense en fait que la question qui se pose n'est pas celle-ci. La question qui se pose, c'est de réinventer des modes d'habiter différents. Et là, il faudra faire évoluer les paysages et les formes d'organisation urbaine contemporaine. Ça, nous le savons. Mais comment les faire évoluer? Ça n'est pas simplement en se disant on prend nos bagages et on va s'installer à la campagne qu'on réglera les choses. Et je ne sais pas ce qu'en pensera l'historien, mais dans l'histoire, on est frappé de voir à quel point, ben, finalement, le comportement des sociétés humaines a déjoué les pronostics. C'est-à-dire que nous ne savons pas exactement ce qu'il va en sortir de cette pandémie. D'ailleurs, les premières réactions des sociétés humaines depuis un an sont presque contre-intuitives pour un certain nombre d'entre elles. C'est-à-dire qu'on n'a pas absolument prévu en mars 2020 ce qui se passe aujourd'hui en avril 2021. Donc nous ne savons pas ce qui se passera dans 10 ans. Mais ce qui est certain, c'est que nous savons qu'il nous faut évoluer. Et là, l'histoire peut être intéressante pour nous donner des cas, des répertoires d'exemples d'évolutions possibles, non pronostiquées, qui ont surpris tout le monde. Et c'est là où les historiens, les préhistoriens et les géographes ont des choses à se dire pour essayer de comprendre la façon dont tout ça pourrait évoluer.
Jean-Baptiste Frissot.
Alors, sur tout le discours sur le monde d'après, etc., ça me semble toujours assez naïf, quoi. C'est-à-dire, c'est évident que la pandémie ne va pas changer grand-chose au fond, tout simplement parce que les grandes infrastructures de production, de manière de nous déplacer, de nous nourrir, elles sont toujours là et ce n'est pas un an ou deux de pandémie qui va fondamentalement les changer. La fin des villes, non. Enfin, la tendance est encore à l'urbanisation galopante dans les pays pauvres en particulier. Donc il n'y a absolument pas cette perspective, à mon avis, qui se dessine. Sur ce qui est de la prédiction, il y a une discipline qui s'appelle la prédiction technologique, technological forecasting, qui émerge dans les 70. Et en fait, quand on lit leurs prédictions sur le futur du mix énergétique, sur le futur du transport aérien, sur le futur même de l'urbanisation, ils sont assez bons, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, il y a une tellement forte inertie de ces grandes infrastructures techniques qu'on est capable de prédire. Alors, ce n'est pas, évidemment, à l'horizon des millénaires, ça, absolument pas, mais à l'horizon de plusieurs décennies, oui, ça marche assez bien. À l'horizon, en gros, dans les années 75, on prévoit le monde dans les années 2000-2020 sur la quantité de charbon consommé, etc. Il tombe assez juste, en fond. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on peut être assez confiant sur le fait qu'on va continuer à émettre beaucoup de CO2 encore en 2030, 2040, 2050. Alors, ce ne sera sans doute pas un effondrement et ce genre de perspective, qui est d'ailleurs héritée de l'archéologie, hein, où on imagine que chaque ruine est le signe d'un effondrement terrible. Ça, c'est une archéologie romantique, hein, évidemment, pas du tout celle contemporaine. Mais cette culture de l'effondrement a eu tendance à infléchir un peu notre perception de la crise environnementale. Le fait même que le Covid ait été le moment d'une résurgence de ce discours de l'effondrement, alors que ça montre exactement l'inverse, que dans les sociétés riches, au fond, elles sont très, très résilientes. On peut mettre les deux tiers de la population en télétravail, entre guillemets, et on continue à être nourri, chauffé, logé, etc. Donc, enfin, les riches. Hein. Donc, il y a quand même cette vision de l'effondrement qui est très, très problématique. Donc, un monde à plus 3, plus 4 degrés, ce n'est pas du tout un monde qui s'effondre, c'est un monde qui est de plus en plus inégalitaire. Et ça, je crois que c'est vraiment important dans une exposition sur le néolithique. Même si le néolithique, c'est un phénomène universel, la terre qui hérite de ça, c'est une terre qui traite très différemment les différents groupes de population en fonction de la géographie, de leur classe sociale. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important d'insister sur le fait que ce qu'on vit, la terre qu'on va laisser en héritage, c'est une terre où la violence va s'exercer à travers l'environnement, à travers des risques accrus, des catastrophes accrues. Et ça, il faut des sociétés très égalitaires pour encaisser ce genre de choc.
Je voudrais ajouter sur le confinement que ce n'est pas quelque chose d'inédit qui nous serait tombé sur la tête. C'est au contraire, il y a une espèce de logique historique, puisque à partir du néolithique, justement, on commence à se confiner. On invente les maisons en dur, on est confiné dans un village et on a la nourriture à portée de la main au lieu de nomadiser comme avant. Quand on invente les villes, on n'a même plus besoin de sortir du village puisqu'il y a les commerces, il y a évidemment des paysans à l'extérieur, mais on le voit à Pompéi par exemple, donc il y a des pour se nourrir, il suffit d'aller dans la boutique. Et on invente l'écriture qui fait qu'on peut communiquer sans se déplacer. Et ces moyens de communication vont faire que s'accélérer. Et le télétravail, c'est juste l'aboutissement finalement de cette logique et qui avait été prédit dans la science-fiction par Asimov, par exemple, il y a déjà 70 ans. Donc,
plus ça va, plus on s'enferme,
bien sûr, il y a des gens qui vont en vacances. Encore quand on fait des croisières, on est enfermé dans une coque en métal pour sortir dans des autobus et y revenir. Et ça concerne que le pourcentage les plus riches de l'humanité. Globalement, il y a un enfermement progressif.
Un enfermement progressif. Michel Lussault.
Oui, c'est pour aller dans le sens de ce que vient de dire Jean-Baptiste. Allez, jusqu'en 2050, l'urbanisation continuera, vraisemblablement. Il y a une inertie telle, et puis l'Afrique s'urbanise, l'Asie continue de s'urbaniser. En revanche, ce que Jean-Baptiste dit et qui est très juste, c'est qu'on voit évoluer depuis quelques décennies les raisons même de la conflictualité et des injustices à l'intérieur des sociétés. Et on pourrait dire que désormais, nous avons à peu près la certitude que l'injustice sociale et l'injustice environnementale se conjoignent. Et ça m'avait fait écrire il y a quelques années un petit livre sur le passage de la lutte des classes à la lutte des places, en disant finalement que dans le monde contemporain, en raison même de la crise environnementale, la question de savoir où on habite, où on réside, dans quel type de configuration géographique on réside, devient tout à fait fondamentale. Et la crise de l'habitabilité de la Terre dont nous parlons, ce n'est pas la crise de l'habitabilité pour Elon Musk ou pour le pourcentage
super riches. Qui ira sur Mars riches. De toute façon.
Voilà. C'est la crise de l'habitabilité pour ceux qui seront dans des espaces géographiques qui seront les plus exposés aux désagréments environnementaux.
Les zones intertropicales.
L'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui aussi en matière d'action, c'est de savoir quel monde voulons-nous en termes de justice, en particulier de justice sociale, d'émancipation et d'accès aux droits. Donc ça n'est pas simplement une réflexion pour sauver la Terre ou sauver la planète. D'ailleurs, la planète, comme dirait l'historien Chakrabarti, elle est indifférente à l'espèce humaine. La question, c'est de savoir, sommes-nous capables de construire un monde de justice ? Et pour répondre à cette question, eh bien aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de penser production économique, répartition des richesses. Il faut en même temps penser aussi la question environnementale. C'est ça, je crois, le moment très particulier que nous avons à affronter.
Et c'est là où c'est extrêmement complexe. Hein. On voit bien à travers cette exposition qu'on a su, l'humanité, quand même s'adapter. On est une espèce à succès, hein, on peut dire. On est devenu, on est 7 milliards et demi, on vit partout, vous le disiez, au pôle Nord, au pôle Sud, enfin au pôle Sud un peu moins, mais disons sous beaucoup de latitudes et beaucoup de températures. Mais en même temps, est-ce qu'on va du coup... est-ce que c'est rassurant, finalement? On peut se dire, quoi, c'est la notion de justice qu'il va falloir... sur laquelle il va falloir être vigilante, c'est la façon dont on va construire nos maisons, dont on va se déplacer, dont on va accepter les autres aussi. Hein. On n'a pas parlé des migrations, mais il y a les déplacements de population, ils étaient très importants, ils ont fait la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais c'est tout ça qu'il va falloir concilier, Jean-Baptiste Ressoz.
Alors, moi, je ne suis pas du tout futurologue, en fait, hein, donc je vais...
Non, mais à partir
c'est-à-dire
de
sur
ce
la
que
question de l'adaptation,
aujourd'hui.
Par exemple, je pense qu'il faut se méfier, justement, du fait que, bah, par exemple, il y a des historiens qui travaillent sur la climatologie historique et étudient le petit âge glaciaire en disant « Ah, regardez, on a su s'adapter, les sociétés européennes ont bien su... »
Au moment du Moyen-Âge.
En gros, ça commence au 15e siècle, 14e siècle, et puis ça finit au milieu du 19e siècle, un moment de refroidissement du climat. Et ça n'a pas empêché la croissance économique de l'Europe, etc. Sauf que, en fait, ce qu'on décrit, c'est un refroidissement de 0,9 degrés sur 4 siècles. Ça n'a absolument rien à voir avec un réchauffement de 4 degrés sur un siècle, ou même pas, enfin 50 ans. Donc je crois que dire qu'on va s'adapter parce que par le passé, l'humanité s'est adaptée, ce serait vraiment se leurrer gravement sur les défis en cours. Une fois encore, ça ne veut pas dire que c'est l'effondrement total, mais ça veut dire qu'on va être confronté, oui, à des phénomènes qu'on n'a jamais vus par le passé quand même.
Et un phénomène qu'on n'a jamais eu par le passé, pour rebondir sur ce que disait Michel Lussault, c'est qu'on se rend compte que tous ces défis sont finalement les premières questions à solidarité obligatoire de l'humanité, alors que Jean-Paul de Moule, finalement, il y a 12 000 ans, chacun était un peu dans son coin et n'avait d'ailleurs pas conscience des autres. Aujourd'hui, on est tous connectés. Et donc, est-ce que ça peut être une force pour être plus résilient, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux faire un peu chacun dans son coin, revenir à des solutions plus locales,
Pour poursuivre ce que disait Michel à l'instant, on ne peut pas juste penser l'humanité comme des humains tous comparables. On est dans des sociétés qui sont régies par des rapports de force où un certain nombre d'individus essaient de contrôler le plus possible. Et ce qu'on peut voir dans cette exposition, on voit les premiers objets en or, les premiers marques de prestige. Et donc c'est par rapport à ça qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire quel type de société on veut, sachant que si on prend l'histoire sur le long terme, ben régulièrement on a des moments de société de plus en plus inégalitaire, et il y a un moment au-delà duquel on ne peut pas aller plus loin. Et là, quand on est dans un moment où 1% de l'humanité possède 50% des richesses ou plus, ça dépend comment on calcule, on voit bien que c'est quelque chose qui est sans commune mesure avec ce qui a pu exister auparavant. Donc là encore, je suis encore moins futurologue que Jean-Baptiste, mais il est évident qu'il va se passer quelque chose et que la relation avec l'environnement va forcément être fondamentale.
En guise de conclusion, si vous deviez dire chacun ce que vous aimeriez que les personnes qui vont visiter, j'espère, cette exposition, hein, qui, je le rappelle, est visible au Musée des Confluences jusqu'à fin janvier, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes retiennent en sortant de cette exposition, Michel Lussault ?
Moi, j'aimerais que les personnes ressortent avec l'idée que cette question anthropocène, cette question du moment contemporain si particulier que nous vivons, ben, c'est une question qui les concerne toutes et tous. C'est-à-dire que c'est peut-être un des plus beaux et des plus grands enjeux et un des plus enthousiasmants dans une certaine mesure, un des plus stimulants enjeux intellectuels, politiques, culturels qu'ils soient. Donc mon idée, c'est que si les visiteurs et les visiteuses sortent de là en disant « bon bah, allez, c'est à nous d'entrer aussi dans des démarches différentes. Ça nous appartient. Voilà. Cet avenir-là, il nous appartient de l'écrire collectivement. Moi, ça me conviendrait tout à fait. »
Jean-Baptiste Ressaud.
Eh bien, qu'entre le néolithique qui occupe le cœur de l'exposition et puis la crise environnementale qui borde l'exposition, il y a eu toute une série de choix qui ont été faits, plus ou moins consciemment, qui ont souvent été faits par une petite partie de la population mondiale, il faut quand même bien le souligner. Et face à la crise environnementale, c'est vraiment ces choix dont on doit discuter très sérieusement et c'est des choix qu'il faut défaire. Donc il y a toute une section sur les transports, sur la mobilité, sur la voiture, il y a une section sur l'agriculture industrielle, etc. En fait, c'est de les amener à réfléchir à ces choix-là, à pourquoi ils ont été faits. Ce n'est pas forcément pour mieux transporter le monde, ce n'est pas forcément pour nourrir le monde qu'on a fait le choix des pesticides ou le choix des engrais chimiques, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, c'est ces choix-là qu'il va falloir défaire.
Jean-Paul Demoule.
Ce que j'aimerais qu'on en retire, c'est à quoi sert l'archéologie. L'archéologie, ce n'est pas juste des beaux objets dans des vitrines, ce n'est pas non plus, puisque l'exposition coproduite par l'Institut archéologique d'archéologie préventive, l'INRAP, qui est souvent très mal vu, des gens qui aiment construire des maisons bétonnées, des villes, des autoroutes, des lignes de TGV, qu'effectivement, si on demande aux aménageurs de laisser que les fouilles ait lieu, c'est aussi parce que ça nous apporte de la connaissance, au-delà de regarder des objets dans les vitrines. En réfléchissant sur le passé, ça doit nous apprendre à réfléchir sur notre présent et pas se sentir comme ça, venu de nulle part, sans comprendre ce qui nous arrive, mais que ça, il y a des causes et s'il y a des causes, il y a aussi des manières d'envisager les conséquences.
Merci à tous les trois d'avoir participé à l'enregistrement de cette émission au cœur de l'exposition « La Terre en héritage du néolithique à nous », une exposition qui sera visible au Musée des Confluences à Lyon jusqu'à la fin du mois de janvier. Merci aux équipes du musée pour leur accueil, merci à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous et des vôtres, on se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
France Inter. RTS la première.